Hein, on est dans le pardon. Le pardon qui environne notre vie, de la même manière que l'amour environne notre vie. Okay? Le principe, hein, pour nous, c'est de protéger notre cœur. Le proverbe 4:23 dit ceci, « Protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. » Et on ne veut pas que les sources soient bouchées. Mais l'ennemi va essayer de tout faire pour que les sources se bouchent. Et donc, vous avez là, ici, un cocktail pour boucher les sources de la vie. Hein, entre les attentes que nous générons envers les proches, hein, des attentes quelquefois inconscientes, hein, que nous générons envers notre mari, envers notre femme, envers nos parents, envers les enfants, hein, envers tous ceux qui comptent pour nous, il y a des attentes inconscientes et quelquefois ce sont des attentes aussi irréalistes. Et ça, c'est une source de blessure. Et nous avons vu la semaine dernière aussi les offenses. Les offenses qui viennent souvent de gens très proches de nous. Et on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, parce qu'à la base, ils sont censés nous aimer. Et donc, nous avons notre grille de lecture où on doit cocher des cases. Et là, on ne comprend pas, mais pourquoi la case n'est pas cochée? Si elle m'aime, s'il m'aime, il ne devrait pas parler comme ça. Il ne devrait pas agir comme ça. Et donc, on a une source là de blessures qu'on va un petit peu revoir ce soir dans le pardon et qui pour nous, nous amène à être conscients de tout ça, qu'il y a une puissance qui s'appelle le péché, hein, et qui est là pour nous mettre par terre. Il y a un combat spirituel. Et l'ennemi de notre âme ne veut pas que nous puissions être heureux, que nous puissions avoir des relations apaisées, que nous puissions nous aimer comme on aimerait que nous nous aimions. Et donc, nous sommes là et ces enseignements-là sont là pour nous protéger dans le sens de comprendre tout l'enjeu qu'il y a et comment ça vient s'imbriquer dans les relations humaines et comment nous sommes tous, tous les jours presque, nous sommes confrontés à des risques d'offense, à des risques d'attente qui ne sont pas là, qu'on aurait voulu, mais ce n'est pas là et on en veut aux autres. Donc, nous avons notre propre responsabilité et tout ça nous amène à vivre en réalité notre identité en Christ. C'est en sachant qui nous sommes, avec un socle solide, le fondement de Christ, où là, nous savons qui nous sommes, que nous sommes aimés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous avons été désirés par Dieu et nous sommes aimés. Et nous avons de la valeur et nous sommes dans l'attachement avec Dieu. Et c'est ça qui est important, parce que tant qu'il n'y aura pas ce socle solide où vous serez ancré en Jésus-Christ, alors vous compterez toujours sur les hommes, avec un grand H, toujours. Et désolé de vous dire, mais vous serez déçus. Peut-être pas tout le temps, heureusement, on ne rate pas à chaque fois. Mais bien souvent, l'autre n'est pas là alors qu'on l'attendait. Des choses qu'on a entendues, qu'on ne comprend pas pourquoi on nous a dit ça. Mais quelle injustice! Des choses d'abandon qu'on a eues, des trahisons. Qui n'a pas connu la trahison avec sa meilleure amie, avec son meilleur ami? Tout le monde a connu des trahisons. Tout le monde a connu des rejets. Tout le monde a connu de l'abandon. Le rejet à l'école. Le dernier qui est pris au match de foot. Ah non, vas-y, prends-le, toi. Prends-le. On ne se bat pas pour lui! Parce qu'il a quelques petits kilos en trop et puis que sur le terrain, il va avoir du mal à avancer, le gars. Alors, voilà, prends-le. Quel sentiment de rejet. La compétition. On est dans un monde de compétition. Et si tu n'es pas bon, eh ben on ne veut pas de toi. C'est compliqué, cette vie dans laquelle on est. Et on a besoin d'avoir cette certitude de notre identité en Christ, que ce n'est pas un être humain, ce n'est pas parce que ça agit comme ça, ce n'est pas ça qui va déterminer qui je suis. C'est Christ qui détermine qui je suis. J'ai de la valeur en Christ. Je suis aimé en Christ. J'ai un attachement en Christ. Et c'est ça qui compte. Parce qu'après, sinon, on va connaître les montagnes russes. Hein, au fil du temps, au fil de ce que les êtres humains veulent bien nous dire. Et c'est trop dangereux pour notre santé mentale. C'est trop dangereux pour notre santé physique aussi et spirituelle. Il faut accepter les êtres humains comme ils sont. C'est la seule solution. On ne peut pas les changer. Donc c'est à nous de ne pas être fou dans les attentes qu'on a avec nos proches. C'est à nous de gérer les offenses, parce que les offenses, il y en aura toujours. C'est à nous de comprendre tout ça et d'agir en conséquence. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir protéger notre cœur. Et bien sûr, pour qu'on mette tout ça en place, ben, il va nous falloir exercer l'amour et le pardon. Le pardon, parce que c'est ce que Christ a dit à la fin sur la croix, quand il dit « Père, pardonne-leur ». Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce qui se passe. Combien de fois la personne est venue vous revoir après, puis elle a dit oh, « Excuse-moi, excuse-moi, je ne savais pas ce que... Tiens, j'aurais pas dû te dire ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Dans les couples, combien de fois on fait des erreurs, et puis on vient, et puis on dit « Chérie, excuse-moi, je t'ai fatigué, je t'ai pas bien. » Oui, on peut reprendre cette phrase-là. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et on a besoin de miséricorde, parce qu'un jour, ça va être nous qui allons faire la bêtise. Et ce jour-là, on aimerait bien qu'on nous dise « C'est pas grave, c'est pas grave. » Et oui, si on veut vivre entre nous, si on veut vivre avec des relations apaisées, des relations d'amour, mais il nous faut comprendre tout ça et accepter la réalité. On n'est pas dans un monde de « Amen ». Il y en a une qui suit, vous avez remarqué ? Les autres, je ne sais pas, mais... Ok, donc nous avons les attaques de l'ennemi qui n'arrêtent jamais, hein, et c'est tout autour de nous, et nous avons une protection entre l'amour et le pardon, nous sommes protégés. Mais à nous de bien gérer tout ça. Vous avez le canevas des relations humaines. Ça, c'est le canevas des relations humaines. Apprenez-le, comprenez-le, vivez-le, appliquez-le dans votre vie, parce que ça, ça reviendra toute votre vie. Faites la paix. Faites la paix avec cette réalité-là. Et vivez ça, et vous verrez qu'il y a moyen de s'en sortir malgré les injustices, les rejets, les abandons, les humiliations et les trahisons. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, le pardon est l'invention de Dieu pour mettre un terme à l'injustice et à la souffrance. Dans un monde où les gens, malgré leurs meilleures intentions, malgré que tout le monde veut faire le bien, malgré que tout le monde aimerait être dans un monde de bisounours, malgré ça, ne réussissent pas à faire la paix et à cesser de se blesser mutuellement. Vous voyez ? Le pardon, ce n'est pas une option. Le pardon, ce n'est pas une option. C'est un processus. Pardonner, c'est un don. Pardon. C'est un geste de grâce afin de libérer un prisonnier. Et vous savez qui est ce prisonnier ? Bien, c'est nous. On croit qu'on a mis prisonnier l'autre. En réalité, c'est nous qui sommes prisonniers. Et on est victime de ça. C.S. Lewis a dit un jour, « Être chrétien signifie pardonner l'inexcusable. Pourquoi ? Parce que Dieu a pardonné ce qui était inexcusable en nous. Seule l'expérience d'avoir été pardonné nous rend le pardon possible. L'amour passe par le pardon. Souvent, on oublie, au bout de quelques années, que nous aussi, nous étions impardonnables. La chair prend le dessus, et puis inconsciemment, on dit « Non, mais quand même, ce qu'il a fait, là, c'est pas pardonnable. » Ça veut dire que, quelque part, moi, ce que j'avais fait, c'était quand même acceptable. Mais lui, là, oh, on va vite dans le légalisme, en fait. On devient vite légaliste. C'est-à-dire que lui, là, dans ma grille de lecture, oh, il coche impardonnable. Et moi, dans ma liste de lecture, ça va, ça passe dans ma liste de lecture, ça passe bien, je ne suis pas si mauvais que ça. Mais quel orgueil! Quel orgueil! Nous étions tous inexcusables. Pour entrer dans ce processus, il faut déjà comprendre ce que le pardon n'est pas. Quelquefois, les gens mélangent tout. Et moi, je voudrais juste, pendant 5 minutes, vous expliquer que le pardon, ce n'est pas forcément l'oubli. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est dangereux d'oublier, parce qu'on ne sait même plus pourquoi on a pardonné. Eh oui, le pardon, ce n'est pas l'oubli. Les blessures dites oubliées sont enfouies dans l'inconscient. Le pardon ne veut pas dire oublier, mais notre mémoire émotionnelle va se cicatriser. On va se souvenir de l'événement, mais il n'y aura plus de ressenti intérieur, plus de ressentiment. On peut prendre l'exemple d'une plaie hein, qui se fait là, par exemple. Eh ben, cette plaie-là, elle va avoir une cicatrice. Mais le jour où tout est remis en place, si vous appuyez dessus, mais il ne se passe plus rien. Et pourtant, la cicatrice est là. Vous savez que vous avez été blessé ici. Seulement, le temps a fait son travail, le pardon, le processus du pardon a fonctionné. Le pardon n'est pas toujours immédiat. Il ne faut pas rêver. Il y a des blessures profondes, difficiles. Et si vous pardonnez immédiatement, très vite, en réalité, vous ne pardonnez pas. Et vous savez quand est-ce que vous le savez vraiment ? C'est quand vous croisez la personne. Changement de trottoir. Chut. Dans l'église, changement d'aller dans l'église. Je croyais que j'avais pardonné. Oh là là, je ne suis pas bien quand je la vois. Et le pardon n'est pas fait. Réconciliation et pardon, ce n'est pas deux mots identiques. Hein? La réconciliation, c'est une suite du pardon qui peut être souhaitable, mais pas systématique. L'important est de ne plus en vouloir à cette personne-là, mais de prier pour elle, de la bénir dans nos pensées, de l'aimer de l'amour de Jésus. C'est une grande différence. Vous rencontrez quelqu'un qui a un gros dysfonctionnement. Ça peut être, je ne sais pas moi, pervers narcissique, un violeur, je n'en sais rien. Moi, il a un gros dysfonctionnement, hein, malheureusement. Hein. Ben, c'est peut-être pas souhaitable de lui dire « on refait la paix ». Et puis, on avance ensemble. Vous comprenez ? Des fois, il faut savoir avoir de la lucidité et de dire « ouf, un peu trop dangereux pour moi ». Mais par contre, avoir des pensées pour lui, de l'amour de Dieu, de prier pour cette personne-là, de dire « Seigneur, guéris cette personne-là » parce qu'elle est dangereuse pour les relations humaines et elle fait des dégâts. Donc, moi, je ne vais pas aller prendre un petit café avec elle, mais par contre, je vais prier pour elle. Et je ne veux plus qu'il y ait du ressentiment dans mon cœur. Voilà le travail. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Quand Dieu nous demande ce commandement-là, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Vous savez pour qui il dit ça ? Vous avez une idée ? C'est pour nous. C'est pour nous. Parce que c'est pour nous protéger. Parce que c'est difficile d'aimer ses ennemis, de bénir ses ennemis et de les maudire en même temps et d'avoir de la haine en même temps. La haine qu'on peut avoir pour ce qu'ils ont fait va tuer notre cœur au fur et à mesure, dans l'offense. Voyez ? Mais de les aimer de l'amour de Dieu, attention, hein, il n'y a pas d'amour sentimental ou d'affectif là-dedans, c'est de l'amour de Dieu. Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne-là. Et permets-moi de prier pour elle, d'avoir cet amour de prier pour elle. Ça, c'est sain. Parce que ça nous enlève toutes sortes d'amertumes dans notre cœur. Et c'est ce que Paul dira à Rome. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a vraiment une recherche, nous, dans notre sainteté, dans notre marche avec Christ, de délaguer, de nettoyer, d'avoir cette volonté de dire « moi, je vais être en paix avec tous les hommes ». Ça ne veut pas dire, comme je viens de dire, ça ne veut pas dire qu'on va prendre un café avec tous les hommes. Ça serait compliqué, de toute façon, 8 milliards, il y aurait fait beaucoup de café, ça. Non, mais c'est que je ne veux plus avoir de squelette dans mon placard. Je ne veux plus avoir de mauvais ressentiments dans ma vie. J'en veux plus. Et ça le fait. Ça le fait petit à petit. Et ben le processus du pardon se met en place. Alors ça, c'est pour tout notre passé. Et puis, pour tout ce qui va arriver devant, et ben on apprend à pardonner parce qu'il y a besoin de miséricorde. Parce qu'il y a besoin de dire, Père, c'est pas grave, ça arrive. Et il ne savait pas ce qu'il faisait. Et puis, vous avez l'autre verset qui baigne dans la miséricorde aussi, et c'est de dire, mais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Si tu es si fort que ça, si toi tu penses que tout est parfait, on se trompe jamais, on tombe jamais, ben vas-y, jette la première pierre. Et personne ne le fera. Parce qu'on a tous péché, on tombe tous, et on est tous imparfaits. Le pardon n'est pas quelque chose de forcé. On ne peut pas forcer quelqu'un à pardonner. Ah, t'es chrétien, hein, tu dois pardonner. Hein. Allez, pardonne. Hein. Non, ça ne marche pas. Le pardon est une expression de l'amour de Dieu et se donne par don. La personne qui pardonne doit demeurer libre de son choix. Sinon, ce n'est pas un vrai pardon. Ça ne marchera pas. Obliger quelqu'un à nous pardonner, c'est lui dire « Je veux que tu m'aimes malgré les blessures que je t'ai infligées. Parce que tu es chrétien, aime-moi. » Ça ne marche pas, évidemment. On peut le souhaiter, mais on ne peut pas contraindre quelqu'un à le faire. Le pardon ne s'impose pas. Quand le Christ nous demande de nous pardonner, c'est une invitation à vivre le pardon. C'est une invitation à rentrer dans le processus. C'est pour toi qu'il le fait. C'est pour que tu sois libre, pas que tu restes prisonnier d'une personne. C'est comme s'il te disait, si tu veux être mon disciple, si tu veux être mon fils ou ma fille, si tu veux me suivre, je t'invite à m'imiter à cause de mon amour pour toi. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Ce qui veut dire, apprends-moi à pardonner comme toi, tu m'as pardonné. Alléluia. Et ça, c'est un processus de maturité. On a une maturité qui se met en place avec nous parce qu'on veut imiter Christ. Et on dit, Seigneur, c'est toi qui me rends capable de pardonner. Parce que c'est son amour. N'oubliez pas que son amour est répandu dans nos cœurs. Et qu'on a la capacité, avec cet amour, de pardonner. Quelquefois, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Parce qu'on a du mal à accepter que... C'est comme si que la dette n'était pas payée. Non, il faut qu'il paye. Non, je ne veux pas pardonner. Moi. Il doit payer ce qu'il a fait là. Et ça, c'est une mauvaise conception du pardon. En fait, c'est toi qui es en train de payer avec la rancœur que tu mets dans ton cœur. Le pardon, ce n'est pas une démission de nos droits. Le pardon ne vient pas éliminer la justice. Mais au contraire, c'est remettre à Dieu la justice. Romains 9, 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Le juste juge, c'est le Seigneur. Donc, quelque part, on n'a pas à s'inquiéter de tout ça. Parce que tout sera fait un jour, tout genou fléchira devant Dieu. Et tout le monde devra rendre des comptes. Pas à s'inquiéter. C'est Dieu qui fera justice. Qui sommes-nous, nous, pour faire justice? Voilà. Une fois qu'on a précisé cela, il n'en reste pas moins que pour toutes les blessures que nous avons reçues, pour les attentes légitimes qui n'ont jamais eu de réponse, la solution, c'est le pardon. L'ennemi, on l'a vu, a placé des pièges tout le long du sentier de ta vie. Tu peux imaginer que ça, c'est le sentier de ta vie et que l'ennemi s'amuse à placer des pièges tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et toi, tu marches et tu dois esquiver les pièges. Ce sont des pièges qui sont faits avec des appâts. Et ces appâts, tu les as parfois ramassés, tu les as parfois consommés. Et quand tu les as ramassés, ça a plongé ton âme dans le gouffre. Une première décision consiste à examiner de près les blessures que tu as subies et la façon dont elles se sont produites. Il y a eu la blessure, oui, mais aussi le choix que tu avais à ce moment-là. Peut-être que tu aurais pu pardonner, comprendre, et ne pas prendre l'appât. Tu aurais pu continuer à vivre avec un cœur pur en arrangeant les choses là où tu étais. Mais au lieu de ça, tu as mordu à l'hameçon et tu as pris l'appât. La première étape est de prendre le chemin de l'humilité et de regarder ce que tu aurais pu faire à ce moment-là. C'est compliqué, hein ? Parce que c'est t'amener, alors c'est pas toujours vrai dans tous les cas, mais si on est honnête, il y a certaines fois où on aurait pu régler le problème. Et on ne l'a pas fait. On a préféré prendre l'appât et se venger nous-mêmes. En tout cas, exercer la vengeance. Au vu de tout ce que tu sais aujourd'hui avec ces enseignements-là, tu peux constater ta part de responsabilité dans le conflit. Tu as pris l'appât que tu n'étais pas obligé de prendre. Tu as peut-être choisi d'être en colère. Tu as peut-être choisi d'être amer ou mesquin. Tu as passé des heures à raconter à tout le monde le mal qu'on t'a fait. Et tu as probablement soigné tes plaies avec des remèdes pas très propres, comme on l'a vu. Et pendant tout ce temps, rappelle-toi, les seringues d'amertume ont répandu l'affection dans ton âme. Vous vous rappelez le piège à loup? Le piège à loup, on va le voir. Hein, oui. Et on a vu que spirituellement, toute cette petite pointe-là, ce sont des seringues. Et quand le piège se ferme, à chaque fois que tu repenses à ce qui t'est arrivé, que tu murmures dans ta tête et que tu revois la scène X fois et que tu te justifies ou auprès des autres, que tu joues la victime en disant « Tu te rends compte? Tu te rends compte ce qu'il a dit? Tu te rends compte ce qu'il a dit ?» C'est les seringues qui versent le liquide en toi, dans ton âme. Nous avons vu qu'il faut s'attendre aux offenses. Elles font partie de la vie. La maturité se distingue essentiellement de l'immaturité et le bonheur du malheur à notre manière de réagir aux offenses que la vie s'obstine à nous distribuer à tous. Maturité et immaturité, la différence, c'est ta façon de réagir. Bonheur et malheur, la différence, c'est ta façon de réagir face aux offenses. On a vu qu'il fallait faire la paix avec les offenses. Les offenses, ils sont sur ton sentier. Jusqu'à la fin de ta vie, tu en auras. Donc, tu ne peux pas jouer sur les offenses. Ils sont là. Tu ne peux pas dire « Ah, Seigneur, je ne veux pas d'offense. » Tu parles. Tu en auras comme tout le monde. La pluie, elle tombe sur le juste et sur l'injuste. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'apprendre à les éviter, à les voir, à avoir cette sensibilité par l'Esprit de Dieu, de dire « Oh, il y a une attaque. Je le sens. Il faut que je me méfie. » Il n'y a que là que tu pourras faire quelque chose. Et on va voir tout à l'heure que l'idéal, c'est de savoir où sont tes faiblesses. Parce que l'ennemi, il les connaît. Et toi, et je vais le dire tout à l'heure, pose-toi la question, si c'était toi qui mettais le piège pour toi, qu'est-ce que tu ferais comme appât? Parce que tu te connais. Tu sais où tu es fragile. Donc, pour te coincer, tu saurais quel appât tu dois mettre. Donc, le travail, c'est vraiment de regarder à l'appât et de dire, je suis fragile par rapport à ça. Il faut que je fasse attention. De toute façon, on ne va pas tomber dans le piège. Il n'y a que comme ça que tu peux marcher sur cette terre en évitant les appâts. C'est en les reconnaissant. En disant, hop, ça c'est pour moi. Dans le psaume, dans les psaumes, vous avez à un moment où on parle du piège de l'oiseleur. Vous connaissez ça? Vous savez ce que c'est qu'un oiseleur? C'est un métier. C'était un métier à l'époque. C'était un métier, tu faisais un piège pour chaque sorte d'oiseau. Ce n'était pas les mêmes pièges. Ce n'était pas les mêmes filets, ce n'était pas la même façon de faire. Donc le piège de l'oiseleur, il est individualisé. Et c'est ce qui se passe pour nous. Le piège, la part, on le met ici, là, le petit plateau, là, on met la part ici, là. Eh bien, il est différent pour chacun d'entre nous. Par rapport à notre histoire, par rapport à notre hérédité, par rapport aux blessures qu'on a eues, il y a des fragilités en nous. Et c'est important de les connaître. C'est important de les connaître. Parce que si tu les connais, eh ben, dans certaines situations, tu vas dire « Oupé, il ne faut pas que j'aille là-dedans, moi. Oh là là, trop dangereux pour moi. » Tu vois? Il me vient un exemple, comme ça. Allez, comment je vais annoncer ça? Tu es un séducteur ou une séductrice. Ça existe? Bon, ok. Et donc, tu es sensible au charme des beaux gars costauds, là, tu sais bien, avec les tablettes de chocolat, tout ça, bien costaud, là. Ou tu es sensible au charme des femmes, tu vois? Mais tu es marié. Mais tu as une fragilité. C'est que tu es sensible à la séduction. Tu es sensible quand une belle femme qui te plaît vient te dire « Ah, oh, c'était bien, hein, franchement, waouh !» Ben voilà un genre d'appât. Si tu sais que tu es sensible au charme féminin ou masculin, quand tu vas voir quelqu'un qui exerce cette puissance-là sur toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cours dans ses bras? Ou tu te barres en courant? Je crois que tu te barres en courant. C'est mieux. Hein? Ça, tu sens l'appât. Tu sens le piège. Tu vois? Et il y en a, Ils ne savent pas qu'ils sont séducteurs. Ils vivent comme ça, ils ne le savent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il n'y a pas de mal. Franchement, il n'y a pas de mal là-dedans. Mais tu vois le mal partout. Dis, non, non, je ne vois pas le mal partout. Mais l'ennemi, là, est en train de te piéger. Tu vois? Et ça, là, ce que je dis, ça paraît anodin. Mais vous pouvez le multiplier par X cas. Vous êtes au travail, il y a quelqu'un qui vous plaît, vous allez prendre un petit café avec elle ou avec lui. Il n'y a pas de mal prendre un café. Eh bien, si. Si. Parce que ça va commencer. Elle va commencer à te raconter sa vie. Et puis là, il y a des petits problèmes dans son couple. Et puis toi, tu es là. Elle a besoin d'une oreille compatissante. Et tu es là pour elle. Tu vois? Et paf, naïvement, tu dis, mais il n'y a pas de mal après un petit café. Et tu commences à penser à elle. Tu vois? Ça rentre dans tes pensées. Et puis, on va reprendre un petit café. Bah ouais, c'était pas mal. On va reprendre un petit café. Ça commence bêtement, naïvement. Et ça finit par un adultère. Voilà. Ah bien sûr que c'est sournois. L'ennemi ne va pas te faire des gros pièges que tu pourrais voir tout de suite, tu sais, avec tes gros sabots. Là, tu diras, ah, je le vois, ton piège. Non, non, beaucoup plus subtil que ça. On pourrait être tenté de se sentir victime toute la vie. Après tout, quel choix nous reste-t-il puisqu'il nous faut bien vivre dans ce monde déchu et que la Bible nous avertit que les offenses vont nous tomber dessus. Notre destin n'est-il pas de supporter les douleurs et les blessures qui tombent comme une averse de météorites sans rien pouvoir y faire? Jésus n'est pas venu pour valider cela. Il est venu pour mettre à jour les pièges du diable afin que nous ne retombions pas en esclavage. Le mot qu'utilise à l'origine le Nouveau Testament pour dire offense recèle un trésor de sagesse. Ce terme m'empêche de me prendre pour une victime de l'offense et me montre au contraire ce que je peux y faire. C'est le mot scandalon. Dans le mot scandalon, il y a le mot scandale. C'est là que vient le mot scandale. L'Esprit Saint a choisi ce terme parce qu'il s'applique très précisément à la guérison de nos âmes. Quand on est offensé, on attrape l'appât du piège qui nous est tendu. Une situation de votre vie te blesse ou te met en colère. L'attaque te fait prendre l'appât placé sur le plateau, le scandalon, au centre du piège de l'offense. En d'autres termes, tu te livres à tous les sentiments de rage causés par cette blessure. À l'instant même, à l'instant où tu touches le plateau, le piège claque et te voilà prisonnier. Tu as mordu à l'appât, l'appât de la colère. N'a pas de la rage. Tu vois, ça montre qu'il y a des blessures en toi qui ne sont pas guéries, tout simplement. Et tu ne le sais pas. Mais l'ennemi le sait. Et donc, il te met un piège où tu peux te mettre en colère facilement. Et toi, tu te mets en colère. Et qu'est-ce que tu vas dire? Ce n'est pas de ma faute. Elle n'a qu'à pas me parler comme ça. Elle n'a qu'à pas faire ça. C'est comme ça que ça va faire. Dans 2 Timothée, 2, 24-26. Paul confirme l'idée que les offenses sont en fait des pièges destinés à nous faire prisonniers. Regardez ce qu'il dit. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens. Et voilà la phrase finale, pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Vous voyez le piège qui est derrière tout ça? C'est diabolique. C'est diabolique. C'est qu'en fait, l'ennemi te fait un piège que tu ne vois pas parce que tu justifies ton attitude. Tu es en colère, tu n'es pas content parce que l'autre a fait ça et ça justifie ta colère. Mais tu es en train de te faire piéger. Tu es en train de prendre l'offense qui est là. Et tu ne sais même pas que la finalité, c'est pour retomber en esclavage avec l'ennemi. Donc ça va loin, hein, ça va très loin. Quand nous exprimons notre colère par tous les moyens et en nous rejouant la scène en boucle, nous considérons l'offense comme quelque chose qui nous est arrivé, quelque chose que les autres ont fait. Cela fait de nous des êtres passifs et des victimes. Pas de ma faute, ça. Pourquoi elle agit comme ça? Pourquoi elle a parlé comme ça? Touché par des injustices sans remède, sans aucun pouvoir d'y changer quelque chose. Comme si on vous apprenait que vous avez une maladie qu'il ne reste plus rien à faire qu'à laisser faire les médecins. Vous devenez passif devant votre maladie. Lorsque nous sommes offensés et engagés dans une querelle, c'est que nous avons ramassé l'appât du piège que le diable nous a tendu. Et quelquefois, c'est l'orgueil. Souvent. Parce qu'on ne veut pas lâcher. On sent que là, savez, est-ce que ça vous est arrivé, vous êtes à table, avec de la famille, tout va bien, on mange le gigot, impeccable. Puis tout d'un coup, il y a une conversation qui arrive sur la table, et puis il y en a un autre qui réagit direct, et pas d'accord. Puis vous voyez, vous êtes là et dites, ouh, ça sent le roussi. Vous sentez que le truc là, c'est pas bon. Ouais. Un piège, il y a un piège qui se fait. Ouais. Si c'est vous, chrétien, avec la connaissance que vous avez, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dire, mais c'est pas grave, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Tu as le droit de penser ça, et moi j'ai le droit de penser ça. Et basta, on change de conversation. Là, le problème de l'appât, c'est pourquoi ça monte ? Parce que personne ne veut lâcher. Tout le monde va avoir raison. C'est moi qui ai raison. Il ne faut pas se faire vacciner. Si, il faut se faire vacciner. Mais non, je te dis que c'est pas... Tu es naïf, tu ne sais pas tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a la 5G, il y a l'IA là-dedans, il y a tout là-dedans. Tu ne te rends même pas compte. Et là, tu dis, mais t'es fou toi, mais pourquoi tu penses ça? Mais t'es complètement malade. Et puis ça finit que les familles se fâchent. C'est arrivé. Donc il y avait l'appât qui était là, et au lieu de le voir et de dire, bon, pourquoi je voudrais avoir raison tout le temps, hein, c'est une bonne question. Hein. Vous en avez qui sont encore à ce stade-là dans la vie. Vouloir avoir raison. Sacrée maladie. Hein. Ben oui, ça se soigne, docteur. Heureusement. Ben oui. Parce que c'est grave de toujours vouloir avoir raison. On ne se pose même pas la question pourquoi je veux absolument avoir raison. On ne se pose même pas la question. Alors que c'est un dysfonctionnement. Tu voudrais que tout le monde soit d'accord avec toi. Est-ce que tu réalises là que ce que tu es en train de dire, c'est une ineptie? Tu as 8 milliards de personnes sur cette terre et donc les 8 milliards doivent être d'accord avec toi. Ridicule. Et puis quelle tristesse si on était tous à penser la même chose comme des petits robots. Donc c'est complètement utopique. Non, le problème, c'est que tu te sens attaqué dans ton identité parce que l'autre n'est pas d'accord avec toi. Tu te sens dévalorisé parce qu'il pense qu'il sait mieux que toi. Quand je vous dis l'importance hein, d'être ancré en Christ, de savoir qui on est et que si l'autre ne pense pas comme toi, mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Vous voyez ? Et ça, c'est le début des petites histoires comme ça. Mais vous avez des familles qui sont fâchées depuis des années. Si on leur dit, mais c'était quoi l'histoire? Je me souviens plus. Je sais pas. Mais de toute façon, avec lui, il n'y a pas moyen de discuter avec lui. Il faut toujours avoir raison. Ça finit comme ça. Si on traduit cela en image, on peut voir le diable en train d'installer ses pièges à offense tout le long de notre chemin de vie. Mais nous avons toujours le choix de mettre le pied dedans ou de les éviter. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors la question que tu peux te poser, écoute bien, je l'ai dit tout à l'heure, quel appât l'ennemi pourrait utiliser contre toi pour être efficace? Si c'était toi qui devais poser un appât pour toi, qu'est-ce que tu mettrais? À réfléchir. Parce que ça, c'est une bonne source pour comprendre là où tu as besoin de travailler et de dire, Seigneur, il faut que je sois plus méfiant que ça dans ce domaine-là, parce que je suis fragile. Et si tu mets le Seigneur dans ta boucle, alors tu pourras dire, c'est quand je suis faible que je deviens fort, parce que le Seigneur est là. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, une belle femme qui est là. Et là, c'est comme ça, on est des êtres humains, on est fait d'émotions. Il y a des gens qui vont vous faire quelque chose émotionnellement, et puis il y a des gens qui ne vont rien faire. D'accord ? Donc, si la personne ne fait rien, ça ne vous fait rien, ben, il n'y a aucun danger. Mais si vous ressentez quelque chose par la personne qui est là, vous dites, hop là, dangereux. Dangereux pour moi. Terminé. Vous fuyez. Fuyez. Vous comprenez ? Il ne faut pas se croire irrésistible. Oui, j'ai des gens qui disent, t'inquiète, je gère. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que je dis aïe, 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 danger. Non, 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 t'inquiète, je gère. Ah, tu parles, tu gères rien du tout. Hein. Mais c'est dangereux, ça. Hein? Tu dis quoi, là? Ben oui, la puissance du péché, c'est des naïfs, des gens qui sont naïfs. Donc, si tu trouves comment tu pourrais te piéger, ben, tu auras sans doute quelques clés pour éviter les futures offenses destinées à te piéger. Parce qu'évidemment, l'ennemi ne va pas faire un piège en mettant quelque chose pour lequel tu n'en as rien à faire. C'est évident. Hein? L'ennemi va mettre quelque chose pour lequel tu vas foncer tête baissée dedans. C'est normal. Par exemple, beaucoup d'entre nous, c'est la part de la trahison qui est efficace. Pour d'autres, c'est la peur du rejet. Ou ce qui marche bien aussi, je pense que ça vous dit quelque chose, ça. On aime tous ça. L'injustice. Ça, c'est un bon appât, ça. Oh, c'est pas juste. Et on a des affaires pas justes. Ah, hein. Oh, ça, c'est pas juste. C'est pas normal. C'est pas normal. Connaître cette information me concernant, c'est comme un renseignement militaire dans mon combat personnel contre les pièges du diable. C'est pas pour rien qu'on est en guerre spirituelle. Et qu'il faut connaître l'adversaire, comment il agit. C'est bien d'avoir quelques munitions, hein, quelques plans secrets. Tu m'auras pas. Non, 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 non. Il faut être alerte. Satan s'efforce de modeler nos vies à partir des blessures et des offenses, afin de nous empêcher de vivre à partir du plan de Dieu. Ces pièges à offenses sont ses outils de base. Faut le savoir. Il se sert de tes blessures. Il se sert de là où tu as eu mal dans ta vie. Et comme ça, c'est plus facile. Hein, parce que émotionnellement, tu vas ressentir des choses. Si les guérisons n'ont pas encore eu lieu complètement, tu restes fragile. Et donc, il va utiliser les mêmes genres d'émotions de façon à ce que tu tombes dedans. Parce que l'émotion, rappelez-vous ce que c'est. L'émotion, c'est de l'énergie en motion. C'est comme si que c'était comprimé. C'est comme si que c'est une énergie qu'on a comprimée. Et quand ça arrive, ça explose. C'est ça l'émotion. Ça peut être positif ou négatif. Positif, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, mais franchement, c'était votre super pote ou votre super ami, vous arrivez, des fois à l'aéroport, vous voyez, à l'aéroport, oh hop, ça s'embrasse et tout, puis mais c'est fort et tout ça, ça déborde, c'est de l'énergie. Ça, c'est de la bonne énergie. Mais vous avez aussi l'énergie colère. Ça aussi, c'est de l'énergie. Et moi, ça va pas, celle-là. Donc, le diable se sert de tout ce fonctionnement émotionnel qui est encore en nous. Et quand vous avez des blessures qui ne sont pas guéries, ben, ça veut dire que vos émotions, dans ce domaine-là, sont à fleur de peau. Hein? Vous avez déjà entendu, il dit là, oh, surtout tu ne parles pas de ça avec lui. Non, 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 ne parle pas de ça. Parce que, oh là 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 là, tu vas voir, il va se mettre en colère. Ouh, un appât qu'on connaît. Connaissant sa manière de faire, c'est à nous de réagir autrement. De ne pas se laisser surprendre. Et nous sommes équipés pour cela. Notre identité en Christ, notre refuge dans les bras du Père, son amour qui coule en nous et qui se déverse dans l'autre, c'est-à-dire notre bouclier d'amour, comme on a pu le voir, la guérison de nos émotions à travers la maîtrise de soi. On est équipés. On est équipés parce que nous savons qui nous sommes en Christ. Donc, ce n'est pas grave s'il y a quelqu'un qui t'a fait une petite réflexion. Pourquoi il a dit ça? Mais non, rentre pas là-dedans, ça c'est un appât. Rentre pas dedans. Et c'est pas grave. Pense ça. Parce que tu connais le piège. Tu sais qu'il y a un piège. Mais tout le monde va dire, ah bon, tu dis rien. Mais quand même, tu vas pas te laisser faire. Ouais, il faudrait peut-être que tu réagisses un peu quand même. Non, tu réagis pas. Alors on va dire, ah ben t'es faible. Mais non, t'es fort. Parce que c'est plus facile de réagir que de rester dans la sagesse et de dire, non, 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 c'est bon. Notre identité en Christ, notre refuge dans les bras du Père. Ça aussi, c'est important. Prenons un couple. Hein? Prenons un couple, et puis, tout d'un coup, ça déraille. Voilà, ça part en cacahuète pour une réflexion. Okay? Mais là, où tu alimentes le feu, hein, la Bible, elle dit, faute de bois, le feu s'éteint. Mais si tu alimentes, bah, des fois, attention, avec deux caractères un peu costauds, là, ça part vite en live. On le sait. Non, il faut se dire... Ouais. Mais c'est pas on arrête et puis on reste avec notre frustration. Non, on arrête et qu'est-ce qu'on fait? On va dans les bras de notre papa. On rentre dans le refuge. Et on dit, papa, mais pourquoi elle est méchante comme ça avec moi? Mais oui, parce qu'au fond de nous, il y a toujours une petite fille, il y a toujours un petit garçon au fond de nous. Et on a besoin d'un papa. Sauf que notre papa terrestre n'est pas toujours là. Et puis il va dire, j'ai autre chose à faire que... Hein? Mais notre papa là-haut, là, est toujours là pour nous. Et tu peux toujours aller le voir. Rentre dans le lieu secret. Parle avec lui, pleure avec lui. Et il te le rendra, ça veut dire qu'il saura te consoler. Amen. Hein? On a besoin de notre papa, du refuge, de cet endroit-là où il y a une relation personnelle avec lui. Une relation forte, une relation qu'on a tissée au fur et à mesure parce que cet amour est venu nous guérir et que maintenant, nous avons au-dessus des relations humaines, nous avons une relation qui dépasse tout. Et c'est la relation avec notre papa. Et c'est lui qu'on va voir quand personne ne nous comprend pas. Quand personne n'a... On trouve ça tellement injuste, personne ne nous comprend. Ça vous arrive, ça? Et là, vous allez voir votre papa. Et vous allez dire, c'est papa, t'as vu? Ils sont tous méchants. J'ai besoin de pleurer. Pleure un coup. Après, ça va aller mieux. Et il sait te consoler. Ouais, mais laisse le temps de digérer un peu. Ouais. Ah, mais tu vas trop vite. Laisse-le digérer, il va mieux. Tac, tac, tac. Les émotions redescendent. On revient. On dit, chérie, excuse-moi, je me suis emporté. Voilà. Mais on laisse descendre les relations, on laisse descendre les émotions. Le problème, c'est que des fois, on se comprend même pas. On a les émotions qui sont en train de monter et on voit pas le piège. La paille est là. On bouille, ça monte, ça monte, ça monte, et puis on s'énerve avec l'autre, et puis c'est parti. Chut. Apprends à gérer tes émotions. Quand les émotions partent comme ça, je te dis, il n'y a pas grand-chose qui peut les arrêter. Il vaut mieux que tu dis, 5 minutes, hop, va voir ton papa, laisse descendre les émotions, et après, quand tu vas revenir, ça sera plus facile. Tu vois? C'est comme je dis toujours aux gens, je dis, ne prenez jamais de décision quand vous êtes au top des émotions. Ah, c'est fini. Ah, je t'assure. Ben, là, terminé, c'est terminé avec lui. Alors, je te dis. Chut, calme, calme. C'est juste les émotions. Pas grave. Nous ne vivons plus par nos émotions. Nous vivons par la foi. Amen. Mais ce n'est pas tout. Allez, allons un peu plus loin. Dans le passage que nous avons lu de Timothée 2, 24-26. Donc, il est dit que le piège à offense est l'œuvre du diable qui nous capture afin de se soumettre, de nous soumettre à sa volonté. Il est clair que le piège à offense n'a pas pour seul but de nous faire très mal, mais aussi de nous capturer pour qu'il puisse se servir de nous et faire du mal à d'autres. C'est un classique. Un classique. Parce que qu'est-ce qui va se passer si tu rentres dans le piège? Ben, tu vas trouver une clique autour de toi avec qui tu vas pouvoir dire « Ah ben, tu te rends compte? Moi aussi. Oh, toi aussi. Allez, viens, on va... » Et puis, ça y est, l'amertume se propage. Hein? Dans une église, avant qu'il y ait une division, ça se passe toujours comme ça. Hein? C'est d'abord des gens qui vont aller se plaindre avec d'autres gens qui sont déjà infectés, qui ne sont pas encore guéris. Et puis, entre nous, ben, on s'infecte. Un petit coup de seringue, oui, toi, t'en as une, oui, tiens, prends un petit coup. Autrement dit, l'ennemi veut nous prendre à son service. Et pour cela, il se sert de ses pièges et de l'amertume qui nous travaille l'âme sous l'effet de l'offense. Paul, il explique ça dans Éphésiens 4, 26-27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Ne donnez pas accès au diable. Tu vois le piège qu'il y a derrière tout ça? Mais on ne le voit pas. Nous, on estime légitime d'être en colère. Parce qu'elle n'aurait pas dû parler comme ça. Quand même. Je ne suis pas n'importe qui. Mais tu ne sais pas que si tu gardes ta colère, c'est le diable qui va en profiter. En grec, accès se dit topos, territoire. Ou parfois territoire stratégique. Paul dit que lorsqu'on s'obstine dans sa colère, on donne au diable un accès stratégique à sa vie. Le vocabulaire chrétien parle de citadelle. Vous voyez ? Quand vous voyez des frères, des sœurs blessés, et puis vous voyez, ils étaient au début, quand ils étaient dans l'église, ils étaient toujours dans les premiers rangs. Puis tout d'un coup, on ne comprenait pas, il a reculé de 6 rangs, dis donc. Psiop ! Et il a donné accès au diable. Et en fait, il est en train de construire sa citadelle. Tu vois, ils sont tous méchants. C'est que des méchants. Hop. Et puis là, il était à moitié. Mais là, aujourd'hui, il est arrivé à la bibliothèque. Il n'est plus très loin de la sortie. On rigole, mais c'est pas drôle. Nous avons tous succombé à cette tentation. Nous sommes blessés par une personne. Et au lieu de déclencher notre bouclier d'amour, c'est là que c'est important de mettre en application ce que Dieu nous donne. Aime ton prochain comme toi-même. Aime-le. Aime-le. Pas comme toi, tu veux. Aime-le comme il est. Ça va te protéger. Sinon, la citadelle, elle va se construire de plus en plus. Donc, au lieu de déclencher notre bouclier d'amour, nous regardons à notre plaie. Là où ça fait mal. Et nous l'aggravons. Comment on l'aggrave ? En se rejouant mentalement la situation et en imaginant qu'elle pourrait être une belle revanche. Comment je vais lui faire payer ça, moi ? Tu vois ? Et on revoit le film dans sa tête. Dis quand même, elle a osé. Incroyable. Tout ce que j'ai fait pour elle. Et elle a osé. Waouh ! Ça tombe. Ça, c'est pas normal, quand même. Non. Elle va payer. D'une façon ou d'une autre. Pas possible. La pas de l'offense a fonctionné. Les seringues de liquide amer sont en train de se vider dans cette âme déjà blessée. Et c'est là que le plan du diable se met en route. Car le diable n'avait pas seulement l'intention de capturer cette seule personne, mais aussi de s'en servir pour amener d'autres gens dans ce cercle vicieux. Cette personne aigrie risque d'en offenser d'autres en se montrant dure à la maison. Elle se construit une citadelle de colère, d'aigreur, rageuse, qui peut exploser à tout moment comme un lance-flamme. Le poison se distille dans son âme et inconsciemment, il y a des tentations de contamination. En critiquant, en médisant, en disant des méchancetés, c'est une rage qui lui tient chaud. Elle a chaud. Elle est bien dans cette rage-là. Ils vont payer. Et là, cette amertume rend tout possible. Aucune limite à ce que tu fais ou dis ici au pays des blessés qui saignent. Tout est possible. C'est le droit. J'ai le droit. Après ce qu'ils m'ont fait. C'est légitime. Et Dieu me comprendra. Mais je ne crois pas. En général, tous les champs d'activité de sa vie s'étiolent. Son mariage, ses relations avec ses enfants, ses amitiés. Tout le monde souffre. On voit le plan ténébreux. On voit le diable derrière tout ça. Comment il essaye d'enlacer tout ça. Et la personne ne voit pas. Elle regarde juste à sa blessure. Elle regarde juste à l'injustice. Elle est bloquée là-dessus. Elle ne voit pas que le diable est en train de l'enlacer. Parce que leurs cœurs rancuniers, endurcis, se sont éloignés de Dieu et de la vision morale à laquelle ils avaient consacré leur vie. Ils se suicident presque à coups de nourriture, de boissons, de fêtes, de distractions. Ils n'ont rien à se refuser après tout. Leur amertume leur permet tous les excès. Et ils s'enfoncent ainsi, captifs de l'ennemi, en faisant d'autres prisonniers en cours de route, en ralliant à leur cause d'autres blessés de cette guerre spirituelle. Waouh ! Quelle réalité, quel réalisme. Bien souvent, pardonner, c'est un combat spirituel. Dans certaines situations, le jeûne et la prière seront nécessaires. Quand on a été très très loin dans l'offense, qu'on a bien pris l'offense et qu'on est bien amoché, quelquefois, il sera utile de jeûner et de prier. C'est une question de puissance spirituelle. L'enjeu, c'est de retrouver sa liberté et sa capacité de continuer à aimer. Regardons en profondeur comment prendre le chemin du pardon. Comment pardonner ? Et si toi, tu sens que tu en es là, qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à pardonner parce que c'est trop dur, alors c'est maintenant que tout se joue. Regarde bien la suite. Le Nouveau Testament, il utilise 3 mots pour dire pardon. Il utilise « aphiemi », il utilise « aphesis » et il utilise « charizomai ». Chacun des termes présente une facette différente de ce qu'est le pardon et chacun peut nous aider à retrouver la liberté. Ce que je prie à l'instant même, c'est qu'à travers ces trois mots qu'on va expliquer, qu'il y ait au moins un mot qui te permette, par le Saint-Esprit, de dire « Waouh, c'est par là que je vais pardonner. » Afiemi signifie « renvoyer, libérer ». C'est une image puissante de l'Ancien Testament, celle du bouc émissaire. Au chapitre 16 du Lévitique, Dieu dit à Moïse de choisir un bouc émissaire pour le jour des expiations. Il s'agissait de tirer au sort un bouc et de l'amener à Aaron, le grand prêtre. Aaron était chargé, écoute bien, de poser ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confesser sur lui toutes les fautes des Israélites ou tous les crimes avec tous leurs péchés. Ensuite, on relâchait le bouc dans un endroit solitaire du désert et il emportait avec lui tous les péchés du peuple. Pour nous, le bouc émissaire, c'est Jésus. Dans la Nouvelle Alliance, il a pris sur lui à la croix des injustices, tes injustices, les péchés, des personnes qui t'ont fait du mal. Afiemi suggère que tu renvoies les péchés commis contre toi. Il te faut placer ces péchés sur Jésus, comme Aaron l'avait fait sur le bouc, puis envoyer au loin. Prendre cela au sens propre, c'est une réalité spirituelle puissante. Jésus a porté sur ses épaules toutes les injustices que tu as subies, toutes les blessures et toutes tes souffrances. Amen. Quand tu sens qu'il y a cette injustice sur toi, pose tes mains sur Jésus et dis « Seigneur, tu les as déjà toutes portées à la croix. Tu as tout accompli à la croix. » Tu peux écrire tous les péchés qu'on a commis contre toi et imiter Aaron. Tu les nommes en les transférant sur Jésus. C'est lui qui te fait justice. Par exemple, si quelqu'un t'a trahi, tu peux prier ainsi. « Seigneur, je comprends que tu aimes cette personne et que tu es mort pour ses péchés. Je dépose cette trahison sur toi, sachant que tu lui as pardonné et que tu es mort pour expier ce péché. » Et cela, tu peux le faire pour tous les péchés que tu as subis. C'est extrêmement puissant de réaliser que tout ça, ça ne part pas comme ça dans le vide ou je ne sais pas où. Tu les poses sur Jésus et tu dis « Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui as tout payé pour cette trahison à la croix. » Amen. Dans cette réalité de bouc émissaire, on ne se contente pas de changer des sentiments vis-à-vis des torts des autres. Parce que souvent, avec le pardon, on dit « Ouais, il faut que tu changes de sentiment, il faut que tu changes de sentiment. » Non, c'est plus puissant que ça. C'est le Saint-Esprit qui retire l'empreinte de chaque péché dans ton cœur au fur et à mesure de ta prière. C'est spirituel. Au fur et à mesure que tu pries, l'empreinte qui était là depuis des années est retirée et mise sur Jésus. C'est une puissance. C'est le Saint-Esprit qui retire ça. Ces péchés et la douleur ressentie peuvent se poser sur Jésus qui a tout accompli pour toi. Jésus s'est identifié à toi pour toutes tes blessures passées, actuelles et à venir. En Jésus, tu obtiens la guérison de tes blessures, la trahison, l'humiliation que tu as subie, les rejets, l'abandon et toutes les injustices de cette terre. Jésus a tout accompli pour toi. Amen. Et ça, tu peux dire merci Seigneur. Parce que je m'identifie à toi. Jésus, à la croix, il a pris toutes les blessures. Si vous prenez la fin de son agonie, il a été rejeté, il a été abandonné, il a subi l'humiliation, il a vécu les injustices, il a tout vécu. Toutes les blessures que nous allons vivre, il les a vécues et il les a prises à la croix. Et tu peux déposer sur lui toutes ces blessures-là en t'identifiant aux blessures de Jésus et à la souffrance de Jésus. Là, tu envoies ces torts loin de toi et sur l'ultime bouc émissaire, Jésus, qui les a fait disparaître dans son sang et dans son amour. Ce n'est pas un jeu intellectuel, c'est une affaire véritablement spirituelle. Te débarrasser ainsi des péchés contre toi, au lieu de rester assis à tenter de diriger tes émotions, va t'aider à entrer dans la puissance du pardon. Amen. On peut retirer un second bénéfice de cette image d'éloignement. Elle permet de te protéger contre les retours de la douleur et de l'accusation. Parce que souvent, ce qui se passe, quand tu pardonnes, Tu ne sais pas pourquoi, à un moment ou à un autre, ça revient. L'ennemi essaye de te faire ressentir l'offense que tu as pris. Et donc, il y a un jeu de puissance là-dedans où tu ne comprends pas, mais tu dis, mais je croyais que j'avais pardonné. Et en fait, ça te revient en pleine figure et tu souffres à nouveau. Eh bien, le fait de vivre cet éloignement, ça permet de te protéger contre les retours de la douleur et de l'accusation. L'ennemi va essayer de te garder dans la douleur en essayant de réinstaller en toi les souvenirs des injustices endurées et les sentiments qui en découlent. Si le pardon n'est rien de plus qu'une réorganisation des sentiments, on ne peut pas se défendre contre ces attaques spirituelles. Mais si le pardon consiste à explicitement se débarrasser des péchés et des torts sur Jésus à la croix, ça met une barrière efficace entre nous et les ténèbres qui veulent revenir. À chaque fois que ça va revenir, tu pourras dire « Non, Jésus les a portés à la croix, ils ne sont plus là, ils ne sont plus sur moi. C'est Jésus qui les porte. » À la limite, tu peux même dire à l'ennemi « Va voir Jésus, il va s'occuper de ton cas. Moi, c'est fini. » Quand l'ennemi s'approchera de toi, tu pourras lui dire à haute voix « Non, je me suis débarrassé de cette histoire, cette personne, je l'ai libérée, elle est libre, Jésus, le bouc émissaire, s'en est chargé. » Et maintenant, moi, je suis libre désormais. Et l'image s'en ira d'elle-même. Ça va plus loin que l'autosuggestion et le jeu mental avec les images qu'il y a dans ton esprit. C'est une réalité spirituelle qui prend place dans ta vie et dans ce processus de pardon. Amen. C'est très puissant. Donc, tu peux prendre ça, mettre ce qui est impossible pour toi à pardonner. Tu dis, Seigneur, je te le redonne, je te le mets. À la croix, tu l'as pardonné. À la croix, tu as tout fait pour moi. Amen. Deuxième terme, c'est aphésis. Aphésis qui signifie libérer de l'esclavage et de l'emprisonnement. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors, quand le pardon n'est pas arrivé à son terme, nous revisitons les épisodes de cette offense pour y rallumer notre colère contre celui ou celle qui nous a maltraités. Cela nous sert à justifier notre rage et à nous distancer des personnes que nous devrions aimer. Elles nous servent à confronter notre opinion sur nous-mêmes et en fait à nous justifier. Et du coup, à nous dérober au commandement de Dieu. En réalité, dans cet aveuglement, c'est nous qui sommes prisonniers. C'est nous qui avons créé notre propre prison. Dieu ne nous libérera pas avant que nous ayons rendu la liberté à tous ceux qui nous ont offensés. Il est temps de les laisser partir. Ouvre la cage en t'excusant. Pardonne-leur comme Jésus t'a pardonné et brûle entièrement cette prison. Brûle-la. Elle n'existe plus, cette prison-là. Libère le prisonnier. Parce qu'en réalité, c'est toi le prisonnier. Tu crois que tu tiens quelque chose en retenant l'autre dans tes pensées et en exerçant des mauvais sentiments envers lui. En fait, tu es complètement aveuglé. Tu n'obéis plus à la volonté de Dieu et en fait, tu es en train de te tuer à petit feu. Ouvre la cage et libère le prisonnier et brûle cette prison. L'image du bouc émissaire et la conscience de ta prison, aphésie, va t'aider puissamment dans ta démarche de pardon. Aphésie, c'est la prise de conscience que j'ai créé une prison où je me suis moi-même emmuré. Mais c'est le dernier des trois mots qui est encore le plus efficace. Le dernier des trois mots grecs qui va vraiment te permettre de pardonner définitivement. Le troisième mot, c'est charizomai. Ça veut dire accorder une faveur, faire miséricorde. La clé essentielle du pardon, c'est l'hameçon de la compassion. C'est ça qu'on va voir ce soir. Ça, c'est une manière mature de se libérer des fautes des autres. L'hameçon de la compassion, c'est quoi? On pourrait rapprocher ce terme au célèbre verset de Jésus que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. En fait, ça consiste à regarder ceux à qui je veux pardonner, en m'efforçant de ne pas regarder à leur mauvais côté, mais en essayant de découvrir l'histoire qui appelle la compassion cachée derrière leurs actes blessant à mon égard. C'est ça la compassion. Personne n'est mauvais à 100%. Mais dans notre blessure, nous ne voyons que ce qui est mauvais. Et nous oublions parfois de voir que malheureusement, la personne, quelquefois, elle a fait comme elle a pu. Par exemple, tu peux en vouloir à tes parents parce que tu n'as pas été aimé comme tu l'aurais voulu, comme tu l'avais dans ton imaginaire, par exemple. Et donc, tu en veux à tes parents. Jusqu'au jour où tu comprends, à travers des explications où tu revisites l'histoire de tes parents, que eux-mêmes n'ont jamais bénéficié de l'affection qu'ils auraient voulu avoir. Et donc, tu es en train d'en vouloir à une personne qui ne t'a pas donné ce qu'elle ne pouvait pas te donner. Et là, tu dis, waouh, ouais. Ouais, je comprends mieux maintenant. Je comprends. C'est ça, l'hameçon de la compassion. Commencer à comprendre en te mettant à la place de l'autre. Et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Comment j'aurais réagi à sa place? C'est l'hameçon de la compassion. Par exemple, je viens de le dire, je ne vais pas le relire. Pour ton père, un autre exemple, c'est compliqué de lui pardonner tellement il a été affreux, dur et méchant. Sa discipline était trop rude et lui, trop loin de mon monde. Trop exigeant dans tous les domaines de ma vie. C'est à peine si je me souviens d'une conversation tendre ou d'une expression d'amour digne de ce nom. Et tu lui en veux maintenant. Tu voudrais être libéré de cette souffrance. L'hameçon de la compassion. Il te faut peut-être commencer à chercher les bonnes choses que tu as reçues. Exemple, peut-être que tu n'as jamais manqué de nourriture. Peut-être que tu n'as jamais manqué de vêtements. Peut-être qu'il t'a transmis les valeurs du travail. Sans doute, il t'aimait à sa façon. Et en regardant à son histoire, en pensant à ses parents, tu peux mieux comprendre qu'il n'aurait jamais pu devenir le père de la série télévisée que tu aimes tant. Qu'il n'a jamais été élevé de cette manière et que sans doute dans son imperfection, il a fait de son mieux. Et si tu peux comprendre que ta rancœur vient pour une bonne part de tes attentes irréalistes, tu pourrais revisiter ton histoire avec lui et commencer à lui pardonner de ne pas être ce qu'il ne pouvait pas être. C'est le début du chemin de la miséricorde et de la compassion. Et nous en avons tous besoin, parce qu'aucun de nous n'est parfait. Nous avons tous fait des erreurs, et en nous référant encore malheureusement, et nous en referons encore d'autres, pardon. Et sans doute, nous aussi, nous aurons besoin d'un peu de compassion et de miséricorde de la part de ceux que nous avons blessés et d'autres que nous risquons de blesser dans l'avenir. Il est possible que, pour certaines personnes, tu ne trouves absolument aucune excuse. Le seul hameçon de compassion que tu puisses trouver est peut-être d'avoir pitié de leur état de pécheur. Tu pourras alors identifier à Jésus et faire le constat suivant. Père, pardonne-lui. Car il ne savait pas ce qu'il faisait. Quoi qu'il en soit, la plus petite ouverture à la compassion que tu pourrais trouver permettra à ce charizomai, esprit de miséricorde et de grâce, de s'y infiltrer. Le pardon pourra alors prendre le dessus et toi être libéré. En résumé, nous avons vu ce que le sentiment d'être offensé peut nous faire faire. La citadelle qui s'installe en nous quand on prend l'appât du piège. Nous avons vu comment cette citadelle injecte du poison dans notre cœur et pollue notre esprit de telle sorte qu'à notre tour, nous infectons les autres par notre comportement rempli d'amertume. Cette prise de conscience d'avoir été piégé et d'être tombé dans l'amertume nous appelle inévitablement au pardon. En réfléchissant aux trois mots grecs que nous avons étudiés, l'un d'entre eux résonnera peut-être plus particulièrement dans ton cœur. Alors passe par cette porte ouverte. Si c'est l'image de ta prison qui te pousse le plus, va vers le changement, prends-la. Si c'est l'image du bouc émissaire ou l'hameçon de la compassion qui fait le plus écho dans ton cœur et te donne l'espoir, alors vas-y, quelle que soit la clé pour toi, présente-toi devant Dieu pour lui demander de t'aider à pardonner. Dis-lui que tu as compris les pièges de l'ennemi et que tu vas relâcher tes captifs. Débarrasse-toi du péché, libère les captifs de ton amertume et de ta haine et offre la miséricorde à ceux qui sont encore sous l'emprise du péché et qui ne font que reproduire ce qu'ils ont subi. Il n'existe pas de formule magique. Maintenant que tu sais à quoi ressemble le pardon, il s'agit d'arriver à un stade où il n'y a plus de dette, où tous les torts à ton égard sont envoyés au loin et dissous dans le sang de Jésus. Tu peux demander à l'Esprit Saint de t'aider à trouver ta propre porte de sortie. Dans Isaïe, il est écrit ceci. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Amen. Le vrai moteur pour le pardon, c'est de se savoir aimer profondément, de l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu dans ton cœur va être décisif entre le choix de pardonner et celui de ne pas pardonner. C'est cet amour qui coule en toi qui va te permettre de répondre à l'appel de Dieu. Aimer son prochain avec son amour à lui. Bénir les autres. Prier pour tous ces gens va ouvrir la porte du miraculeux. Frédéric Bochner a fait cette déclaration suivante. Des 7 péchés mortels, la colère est sans doute la plus amusante. Lécher ses plaies, se régaler de doléances passées depuis longtemps, se pourlécher à la perspective d'âpres confrontations encore à venir, savourer jusqu'à la dernière miette et la douleur reçue et la douleur rendue, de bien des façons, c'est un festin de roi. Le principal inconvénient, c'est que vous vous engloutissez vous-même, le squelette du festin, c'est vous. Voici ce qu'un homme de Dieu qui n'arrivait pas à pardonner à certaines personnes a déclaré un jour suite à cette prise de conscience en lisant cette déclaration de Frédéric Bochner. J'ai décidé de pardonner et je l'ai fait parce que 1. J'avais peur de ne plus pouvoir le faire. 2. Je haïssais ce que j'étais en train de devenir. 3. Je voulais que mon Dieu me pardonne et je savais que jusque-là j'avais rendu ce pardon impossible. 4. Je refusais de devenir le squelette du festin de Bochner. Et enfin, je l'ai fait parce que je voulais vivre un projet plus noble, pas celui que le démon me réservait, fait de douleur et de haine, mais celui d'un Dieu aimant qu'il avait choisi pour moi avant tous les temps. Et je savais que tout reposait sur le pardon. Amen. En conclusion de cet enseignement sur le pardon, en tant que disciples de Jésus, nous n'avons pas à craindre les pièges du diable qui se sert de nos bien-aimés. Nous pouvons pardonner autant de fois qu'il le faudra et ne pas prendre l'appât. Notre foi nous amène dans cette dimension où nous croyons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il se sert de ses attaques, il se sert de ses épreuves pour façonner notre vie à sa gloire. Amen. Les épreuves sont douloureuses, mais aussi rédemptrices. Ce qui signifie que dans sa main, elles accomplissent de bonnes choses dans notre vie. À l'exemple de l'apôtre Jacques, nous pouvons réaliser la chose suivante. Quand toutes sortes d'épreuves t'assiègent, mon frère, ma sœur, ne te rebelle pas contre ces intruses, mais accueille-les comme des amis. Comprends qu'elles viennent pour tester ta foi et produire en toi la qualité de l'endurance. Laisse le processus se dérouler jusqu'à ce que l'endurance ait atteint son objectif et tu découvriras que tu as acquis la maturité nécessaire pour que s'accomplisse le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Voyons les épreuves comme un passage obligé pour nous façonner. Amen. Dieu est en train de te reformer parfaitement. Il transforme les messages des flèches qui t'ont blessé durant toute ta vie. Et pour cela, il te fait prendre conscience petit à petit de ta nouvelle identité en Christ. Définitivement, tu es aimé à la bonne source, la source des eaux vives. Tu es définitivement accepté tel que tu es et tu ne seras plus jamais seul. Tu as une grande valeur et tu as définitivement retrouvé ton refuge. Ce refuge qui ne manquera jamais, il sera toujours là pour toi, dans les bons comme dans les mauvais jours. Tu es maintenant complet en Christ. Amen. La souffrance de l'épreuve est rédemptrice dans la main de Dieu. Et comprendre cela transforme effectivement le sens de cette douleur et peut barrer la route à l'amertume qui voudrait infecter ton âme. Au-delà de la personne que tu aimes et qui se trouve devant toi et dont l'ennemi se sert pour placer les appâts, il y a un enjeu spirituel, celui de ta destinée. Ta place est dans le ciel. Les appâts sont placés sur ta route afin que tu ne puisses pas finir la course. L'ennemi fera tout pour que tu ne puisses pas entendre cette promesse. Entre, bon et fidèle serviteur, tu as combattu le bon combat. Voici, je te remets la couronne de vie. Maintenant, tu vas pouvoir vivre avec moi pour l'éternité. Amen. Ce soir, je t'invite à te repentir et à t'engager, à pardonner à ceux qui t'ont fait du mal parce que, comme cet homme de Dieu, tu ne veux pas servir de festin au prince de ce monde. Et tu désires pour ta vie un projet plus noble, pas celui que le démon veut pour toi, fait de douleur et de haine, mais celui que ton Papa céleste a choisi pour toi avant la fondation du monde. Je t'invite à renouveler ton engagement envers le Seigneur, celui de devenir un instrument de paix. Là où il y a la haine, tu vas apporter l'amour. Là où il y a l'offense, tu vas apporter le pardon. Là où il y a la discorde, tu vas apporter l'unité. Là où il y a le doute, tu vas apporter la foi. Là où il y a le mensonge, tu vas apporter la vérité. Là où il y a les ténèbres, tu vas apporter la lumière. Là où il y a le désespoir, tu vas apporter l'espérance. Là où il y a la tristesse, tu vas apporter la joie. Mes frères et sœurs, soyons des vaillants semeurs de graines de paix et d'amour qui allons porter du fruit pour l'éternité. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous avons reçu une grâce imméritée qui nous donne une responsabilité, celui de montrer le Christ à travers notre vie. Maintenant, Seigneur, que j'ai renouvelé mon engagement, je m'attends à toi. Tu es ma source. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un petit temps juste pour laisser le Saint-Esprit nous parler, afin que nous prenions une bonne décision ce soir, qu'il n'y ait plus de non-pardon dans notre cœur et qu'à l'avenir, nous sachions éviter les appâts, que nous ne rentrions pas dans l'offense, que cet enseignement porte du fruit pour l'éternité, pour toutes vos relations à venir, toutes les relations que vous allez rencontrer demain, après-demain, dans un an. Pensez à tout ce que le Seigneur a pu dire dans votre cœur, afin que vous ne vous fassiez pas piéger par l'ennemi. Il y a un piège derrière les relations. Et c'est à nous de ne pas tomber dans le piège et de vivre ces relations comme Dieu le veut. Soyons des porteurs d'eau vive. Amen. On prend un petit instant, on va écouter ce chant et qu'on va demander au Saint-Esprit de nous visiter et de changer nos comportements qui doivent être changés, de réaliser tout ce qu'il y a comme enjeu et qu'à l'avenir, dans nos relations, nous ne nous fassions pas piéger par les appâts que l'ennemi voudra poser sur notre chemin.